Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos sociétés d'État ont-elles perdu leur sens de l'État? Un texte de Philippe Mercure paru le 25 mars 2026 dans la presse. Nos sociétés d'État travaillent-elles pour le bien collectif des Québécoises et des Canadiens ou poursuivent-elles trop souvent des intérêts dictés par leur propre logique interne? La question se pose à la suite d'une vague de décisions controversées. Je pense à Radio-Canada qui signe une entente avec le géant américain Amazon pour diffuser RDI sur Prime Video avant de se rétracter devant le tollé, à la SAQ qui établit un partenariat avec la multinationale américaine Uber Eats pour livrer de l'alcool aux Québécois dans le confort de leur foyer, à la SAQ encore qui semble considérer la baisse de la consommation d'alcool comme une mauvaise nouvelle et multiplie les initiatives pour la freiner, notamment par la création de mini-agences dans les épiceries et les dépanneurs. La SAQ a aussi fermé certaines succursales au cœur des villes pour les déplacer en bordure d'autoroute, soulevant la colère de municipalités comme Victoriaville qui cherchaient à revitaliser leur centre-ville. J'ajoute que pendant ce temps, personne ne semble remettre en question le fait que l'Auto-Québec est devenu une gigantesque machine de marketing, stimulant la vente de gratteux et de paris sportifs à grands coups de publicité. L'idée de créer cette société d'État était de soustraire le jeu à l'emprise du crime organisé. Mais ce dernier n'a jamais fait d'annonce pendant le bye-bye pour stimuler la demande. Personnellement, j'éprouve un malaise à voir nos sociétés d'État raisonner comme des entreprises privées. Les experts que j'ai consultés ne sont pas unanimes sur la question. J'y vois une preuve qu'on est mûr pour un bon débat de fond sur la mission qu'on veut donner à ces sociétés. Michel Poitevin est chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, CIRANO, et professeur au département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Il ne partage pas du tout mes préoccupations. Je n'ai aucun problème à ce qu'une société comme la SAQ se comporte comme une entreprise privée, me dit-il d'entrée de jeu. En fait, j'aimerais mieux que la SAQ soit privatisée et qu'il y ait de la concurrence. La privatisation est un débat en soi, mais en attendant, une société d'État ne devrait-elle pas défendre les missions de l'État ? Je pense que c'est souvent à tort qu'on voudrait que nos entreprises publiques se soucient du bien collectif, répond Michel Poitevin. Prenons l'exemple de Victoriaville. La question à poser, c'est est-ce le rôle de la SAQ de revitaliser un centre-ville? S'agit-il du meilleur outil dont dispose le gouvernement pour remplir certains objectifs publics ou sociaux qui vont au-delà de bien servir les clients, de donner un bon service et, entre guillemets, de faire des profits? L'Association pour la santé publique du Québec considère qu'une société d'État est la mieux placée pour commercialiser des produits ayant des impacts sur la santé, comme l'alcool. L'exemple de la Société québécoise du cannabis me semble intéressant. La santé et la sécurité de la clientèle sont clairement mentionnées dans sa mission. Et les dividendes sont versés dans le fonds de lutte contre les dépendances qui, en principe, soutient notamment la recherche et la prévention, même si des ratés ont été observés. Michel Poitevin me fait remarquer qu'en utilisant une combinaison de taxes et de réglementations, le Québec a réussi à faire chuter de façon draconienne le taux de tabagisme, et ce, même si les produits concernés sont vendus par le privé. L'exemple est effectivement intéressant. Comme vous, je ne suis pas à l'aise face à plusieurs décisions récentes, me dit quant à lui Luc Bernier, professeur à l'École nationale d'administration publique, ENAP. Une société d'État a une mission commerciale, je veux bien, mais aussi une mission d'intérêt général, de mise en œuvre des politiques gouvernementales. Le chercheur travaille justement à un projet de recherche intitulé « Les logiques multiples des sociétés d'État ». Il y a la mission de base, la rentabilité, les politiques publiques, parfois une mission d'entrepreneuriat. Avec les années, il s'est aussi développé une logique de gouvernance, avec les conseils d'administration et le vérificateur général qui prennent plus de place. Il convient que tout ça forme une logique d'ensemble compliquée, mais il estime que des partenariats avec des géants américains controversés comme Amazon et Uber Eats sont des signes clairs de déséquilibre. « On est tombé dans l'absurde », estime-t-il. « À un moment donné, il n'y a pas juste l'argent ». L'État est censé protéger l'intérêt général. Sa collègue, Marie-Soleil Tremblay, aussi professeure à l'ENAP, plaide quant à elle pour une réflexion en profondeur. Oui, dit-elle, certaines sociétés d'État adoptent des comportements qui rappellent le secteur privé. Mais le véritable enjeu, n'est-ce pas ce virage en soi? C'est l'absence d'un débat clair sur la mission qu'on souhaite leur confier. D'un côté, elle souligne que plusieurs sociétés d'État évoluent aujourd'hui dans des marchés en transformation et doivent adapter leurs pratiques pour demeurer pertinentes. De l'autre, elle voit aussi un risque que certaines décisions se prennent au détriment de l'intérêt public. La professeure Marie-Soleil Tremblay rappelle que les sociétés d'État québécoises ont rapporté près de 6 milliards de dollars en redevances en 2025. Si l'on choisit de recentrer leur mission à la suite d'un débat clair sur leur rôle, il faudra aussi réfléchir aux conséquences sur les attentes en matière de dividendes versés au gouvernement, rappelle-t-elle. Certains feront valoir que les bénéfices générés par les sociétés d'État à caractère commercial contribuent au financement des autres missions de l'État, ce qui en soi sert également l'intérêt public. C'est vrai, je plaide toutefois pour qu'on réfléchisse de façon encore plus large. Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, CCDUS, calcule que l'alcool coûte 19,76 milliards par année au Canada en frais de santé, baisse de productivité, troubles sociaux et autres. Pour le Québec, cela fait des coûts annuels d'environ 4,3 milliards, trois fois plus que les bénéfices de la SAQ en 2025. Si l'État dépense 3 dollars chaque fois qu'il en génère un en vente d'alcool, on doit parler d'appauvrissement et non d'enrichissement. J'estime aussi que l'État ne crée pas de richesse en pigeant de l'argent dans la poche de ses propres citoyens en leur vendant des billets de loterie. Au mieux, il s'agit d'une forme d'impôt volontaire. Mais il faut prendre garde aux effets délétères comme la dépendance au jeu. En l'année électorale 2026, un débat sur la mission de nos sociétés d'État parviendra-t-il à s'insérer parmi les principaux enjeux? Les nombreux malaises exprimés récemment, en tout cas, me font dire que le Québec est mûr pour une telle discussion. C'était « Nos sociétés d'État ont-elles perdu le sens de l'État ?» un texte de Philippe Mercure paru le 25 mars 2026 dans la presse.
Que reste-t-il du mouvement de boycottage des produits états-uniens? Un texte d'Annabelle Caillot, paru le 10 février 2026 dans Le Devoir. Fini les fraises de Californie, les repas au McDonald's et les achats sur Amazon. Un an après les premières menaces tarifaires de Donald Trump, de nombreux Québécois poursuivent avec ferveur le boycottage des produits et services américains. Mais le flou sur l'origine des articles, le coût plus élevé des options locales et l'omniprésence des marques américaines en ligne mettent leurs convictions à l'épreuve. Selon le plus récent baromètre du Conseil québécois du commerce de détail, CQCD, mené en janvier et publié mardi, 55% des consommateurs québécois disent éviter d'acheter américain. Un résultat semblable à celui observé lors du dernier coup de sonde publié en octobre. Preuve que le mécontentement envers le président Trump est toujours aussi fort ici. Philippe Beaudoin fait partie de ceux qui, écœurés par ses politiques et son attitude, ont plongé sans hésitation dans le mouvement en février 2025. Un an plus tard, sa motivation demeure intacte, même si l'exercice s'est révélé plus exigeant que prévu. Je pensais que ce serait facile, mais ça a été des heures de recherche et beaucoup de temps passé à l'épicerie, raconte-t-il. Pourtant adepte de l'achat local depuis longtemps, il a pris conscience de la place qu'occupaient les produits américains dans son panier. Céréales, jus, fruits, légumes, condiments. Il scrute désormais tout à la loupe. Il a remplacé la mayonnaise Hellmann's par la québécoise Mag et ses céréales Jordan's par la marque La Fourmi. Il s'est aussi abonné au panier de fruits et légumes Lufa. Des choix qui apaisent sa conscience, mais alourdissent la facture. Je suis conscient d'être chanceux de pouvoir choisir ces options locales qui sont souvent plus chères. « Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce boycottage », admet M. Beaudoin. certaines limites demeurent difficiles à contourner. Le céleri, par exemple. C'est presque impossible d'en trouver qui ne viennent pas des États-Unis, souligne-t-il. Même constat pour certains produits d'hygiène en pharmacie. Les étiquettes, un casse-tête. Il note par ailleurs que la provenance de certains aliments, comme les noix, reste floue. Même si les épiceries affichent bien mieux l'origine de leurs produits, l'étiquetage sème encore la confusion. Plusieurs lecteurs nous ont aussi fait part de leur frustration de ne pas toujours trouver l'origine des produits qu'ils achètent ou de leur difficulté à décrypter les étiquettes. Quand la feuille d'érable et la fleur de lys se sont généralisées en magasin, c'est devenu compliqué. On amalgame sous ces drapeaux aussi bien les produits d'entreprises canadiennes que les produits d'entreprises américaines embouteillés, empaquetés ou fabriqués en tout ou en partie au Canada. C'est mêlant. On ne sait même plus si on boycotte vraiment les États-Unis, déplore de son côté Michel Houle, avouant avoir parfois relâché ses efforts par commodité ou par goût. Limite numérique. Outre l'épicerie, le boycottage des électroménagers et des appareils électroniques d'origine américaine s'avère plus complexe, selon les témoignages recueillis par Le Devoir, la majorité comportant des composants provenant des États-Unis. C'est toutefois l'espace numérique qui semble donner le plus de fil à retordre aux consommateurs. C'est le cas de Geneviève Dubé. Si boycotter les produits états-uniens à l'épicerie a presque été un jeu d'enfant pour cette mère de famille, appliquer la même recette sur le web s'avère un casse-tête. Déjà absente des réseaux sociaux, elle a fermé ses comptes Amazon Prime et Disney+, mais continue de profiter à l'occasion du compte Netflix de son conjoint. J'utilise encore les produits Microsoft pour le travail et je suis abonné à YouTube Music. C'est une question de facilité. C'est plus difficile de trouver des solutions de rechange dans ce domaine. Je choisis mes combats, explique-t-elle. Philippe Beaudoin a, lui, supprimé ses comptes Instagram et Facebook, mais conserve Messenger, WhatsApp et LinkedIn, pour des raisons personnelles et professionnelles. On prend conscience à quel point le monopole américain est puissant et à quel point on est devenu dépendant, prisonnier même, observe-t-il. Un mouvement durable. Le mouvement de boycottage des produits et services américains n'est donc pas sans faille, mais il résiste et perdure. C'est la première fois que je vois un tel mouvement à l'échelle d'un pays durer aussi longtemps. Comment, surpris, Sylvain Charlebois, directeur scientifique au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Il faut dire que l'actualité ne cesse, selon lui, de nourrir la mobilisation. On ne cesse de parler de Donald Trump et c'est toujours négatif. Ça donne chaque jour aux gens de nouvelles raisons de boycotter. Reste que, selon les sondages, l'autre moitié des consommateurs continue d'acheter américain. Le baromètre du CQCD révèle même que plus de 8 Québécois sur 10 ont déclaré avoir fait des achats sur Amazon dans les 6 derniers mois. Beaucoup ne peuvent financièrement se permettre de boycotter les produits américains. D'autres se fichent des tensions entre le Canada et les États-Unis. Et il y a ceux que ça dérange, mais qui estiment que boycotter ne servirait à rien, avance le professeur. Le mouvement a-t-il une incidence sur l'économie américaine? Réponse courte, non. Nos importations depuis les États-Unis ont baissé un peu en 2025, mais pas énormément. Le gros de nos importations concerne des biens intermédiaires et les entreprises ne peuvent pas bien souvent boycotter, explique Julien Martin, professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. En évitant d'acheter des produits des États-Unis et de voyager au pays, les consommateurs n'ont que peu d'effet sur l'économie américaine et ont donc peu de chances de faire changer d'avis Donald Trump. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, au contraire, souligne-t-il. C'est un moyen de passer à l'action et de se sentir moins impuissant face à la situation. Ça envoie aussi un message fort à nos gouvernements et les encourage à tenir tête au président Trump. C'était « Que reste-t-il du mouvement de boycottage des produits états-uniens ? un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 10 février 2026 dans Le Devoir.
Tout ce qu'il faut savoir sur la testostérone. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 7 mars 2026 dans La Presse. La testostérone est souvent associée à la virilité, à la masculinité et à la pilosité. Son rôle dans le corps, tant chez l'homme que chez la femme, est cependant beaucoup plus vaste. Cynthia Mayo, naturopathe agréée, répond à quelques questions populaires pour vous permettre de mieux comprendre cette hormone essentielle. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone sexuelle synthétisée à partir du cholestérol au terme d'un long processus en plusieurs étapes, résume Cynthia Mayo. Le cholestérol est d'abord transformé en prégnénolone, puis en progestérone, en androsténedione et enfin en testostérone. Cette dernière étape se déroule principalement dans les testicules, les ovaires et les glandes surrénales. À quoi sert-elle précisément? La testostérone fait partie du groupe des hormones dites androgènes. Celle-ci influence plusieurs systèmes métaboliques, c'est-à-dire la manière dont le corps utilise l'énergie, renouvelle ses tissus et régule sa composition de muscles et de graisse. Plus particulièrement, la testostérone joue un rôle important sur la masse musculaire, la libido, le niveau global d'énergie et les performances, qu'elles soient athlétiques ou autres, résume Madame Mayo. Les effets bénéfiques de la testostérone dépendent aussi de niveaux adéquats d'autres hormones telles que l'œstrogène, le cortisol et l'insuline. C'est un savant jeu d'équilibre à atteindre, ajoute la naturopathe. Quelles sont les habitudes de vie qui favorisent sa production? Il ne s'agit pas d'une chose en particulier, mais plutôt d'adopter de saines habitudes de vie globales, résume Cynthia Mayo. La pratique régulière d'activité physique, une alimentation équilibrée et riche en protéines, un sommeil de qualité, une bonne gestion du stress. Tout ça crée un contexte favorable à la production de testostérone. Bien dormir s'avère particulièrement important. La production de testostérone se fait en cycle et en grande partie pendant le sommeil profond. Des éveils fréquents ou un horaire irrégulier peuvent perturber ce processus. Comment la testostérone sert-elle l'activité physique? La plupart des formes d'activité physique peuvent bénéficier de la testostérone. Sans agir directement comme source de force, d'endurance ou de vitesse, cette hormone aide cependant le corps à s'adapter à l'effort. Entre autres, la testostérone permet au système nerveux de mieux activer les muscles afin de générer davantage de puissance et d'exécuter des mouvements de qualité. Elle contribue aussi à la récupération et à la régénération des tissus, deux aspects essentiels au développement de la masse musculaire. Ce n'est pas pour rien que les sports organisés sont souvent genrés. Les hommes produisent environ 10 fois plus de testostérone que les femmes, ce qui leur procure un avantage majeur d'un point de vue athlétique, nous rappelle Cynthia Mayo. Quels sont les symptômes qui peuvent indiquer un manque de testostérone? Chez l'homme, la production de testostérone peut diminuer progressivement et de façon naturelle dès la trentaine, un phénomène désigné comme l'andropause. Contrairement à la ménopause, qui entraîne des changements hormonaux plutôt rapide, cette transition est généralement graduelle, sur plusieurs années. C'est souvent dans la cinquantaine que les symptômes deviennent plus perceptibles. Quand la testostérone est moins présente, on peut ressentir de la fatigue, une diminution d'énergie généralisée, une perte de libido et parfois des chaleurs et des changements cognitifs, comme des problèmes de concentration ou une baisse de motivation. Résume Madame Maillot. C'était tout ce qu'il faut savoir sur la testostérone. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 7 mars 2026 dans La Presse.
La goutte de trop. Un texte signé Miville Tremblay, fellow invité au Cyrano. Texte publié dans La Presse du 17 mars 2026. La guerre en Iran pourrait être la goutte de pétrole qui fait déborder le vase de l'économie mondiale, déjà rempli à ras-bord de problèmes. Un blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran a toujours figuré parmi les plus grands risques géopolitiques, un cinquième du pétrole mondial y transite, mais a toujours été jugé improbable car les États-Unis l'empêcheraient sûrement. Or, nous voilà aux prises avec la plus importante perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. L'appel de l'Agence internationale de l'énergie au déstockage des réserves stratégiques n'apportera qu'un soulagement partiel. L'hubris du président américain semble déculotté par le fanatisme des mollahs. Il présumait l'effondrement rapide du régime théocratique. Mais même sous les ruines, celui-ci se révèle plus coriace que Trump, inquiet pour la majorité républicaine lors des élections de mi-mandat en novembre. Les Américains ne veulent plus d'aventures militaires qui s'enlisent et ragent devant un gallon d'essence en hausse moyenne de 23 % depuis le début du conflit, sciemment déclenché par Trump et son allié israélien Benyamin Netanyahou. Amère ironie, pour déboucher le détroit, Trump réclame l'appui de pays qui l'agressent de maintes manières. Contrairement aux États-Unis, exportateurs nets de pétrole, l'Asie et l'Europe sont importatrices, mais sont pourtant réticentes à se rallier au président avec une opinion publique hostile. Les marchés misaient sur une guerre éclair, mais elle tourne mal et la complaisance n'est plus de mise. Le prix du brut devra grimper plus haut pour forcer une destruction de la demande à la hauteur de l'offre manquante. L'économie mondiale risque une récession, même si elle opère avec relativement moins de pétrole que lors des crises des années 1970. Plus l'embargo durera, plus il aggravera les fragilités existantes. Déjà, la croissance chancelle au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe, en raison de la guerre commerciale livrée par Trump. En Chine, le gouvernement a réduit ses ambitions. L'onde de choc du pétrole et du gaz se diffusera plus largement sur les prix par le canal du transport des marchandises et celui de l'urée, dérivé du gaz naturel, l'engrais le plus utilisé en agriculture. Les banques centrales ont beau exclure le prix volatile de l'essence de leurs mesures tendancielles de l'inflation, elles hésiteront à abaisser le taux directeur rapidement après le trauma des hausses de prix post-COVID. Face à une stagflation, elles devront choisir entre une baisse des taux qui stimule l'économie mais alimente l'inflation et une hausse des taux qui calme l'inflation mais nuit à l'emploi. La tentation d'attendre sera forte. Avec un endettement public à des niveaux records dans de nombreux pays, le marché obligataire exige des rendements plus élevés malgré son statut de valeur refuge. Ça ne va pas aider le marché chambranlant des prêts privés qui a injecté des milliards dans l'intelligence artificielle pour construire ses centres de calcul énergivores. La hausse du gaz naturel qui génère l'électricité menace leur rentabilité. Voilà bien des raisons pour déclencher une correction boursière, peut-être même un marché baissier, après de riches années. Ces facteurs réunis inciteront les consommateurs à réduire leurs dépenses. Ils pèseront également sur les intentions d'investissement des entreprises apeurées par l'incertitude. Cette crise du pétrole fera des perdants, les consommateurs, mais aussi des gagnants. À court terme, le Trésor albertain profitera du pactole partagé avec les actionnaires américains des entreprises exploitant les sables bitumineux. Même chose pour celles qui extraient le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis. Le portrait est plus nuancé pour les grandes pétrolières mondiales en raison de leurs intérêts menacés au Moyen-Orient. Autre gagnant, la Russie, dont Trump vient d'alléger pour 30 jours des sanctions restreignant ses ventes de pétrole. La stratégie de Mark Carney est de faire du Canada une superpuissance énergétique. Plusieurs voix invoquent le blocus du Golfe Persique pour accélérer la construction d'oléoducs pour approvisionner l'Asie qui en dépend. Il faudra convaincre les actionnaires des pétrolières qui préfèrent les gros dividendes et les rachats d'actions aux investissements risqués dans un marché volatile. Ils savent que la crise sera terminée lorsqu'un nouveau pipeline entrera en marche. D'ici là, l'Asie aura progressé dans les énergies renouvelables, rapides à déployer et qui réduisent sa dépendance envers le pétrole étranger. Grâce à la Chine, les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries pour pallier leur intermittence sont meilleurs marchés que les autres modes de production d'électricité. Lorsque l'accord de Paris fut signé il y a 10 ans, les véhicules électriques comptaient pour moins de 1% des ventes mondiales. Ils dépassent aujourd'hui les 25% et croissent rapidement. Il n'y a qu'en Amérique du Nord, où plusieurs politiciens pensent encore que l'avenir appartient aux énergies fossiles. Quoique, même aux États-Unis, il se vend plus de thermopompes que de chaudières au gaz naturel. La réduction des gaz à effet de serre n'est plus l'argument vendeur. Les solutions renouvelables sont moins chères, rapides à installer et mettent les populations à l'abri des chocs géopolitiques. Enfin, dans le terrible gâchis de cette guerre, pointe aussi l'espoir que les autocraties iraniennes et trumpiennes en sortent toutes deux perdantes. Fin de ce texte signé Miville Couture, titré « La goutte de trop », publié dans la presse du 17 mars 2026.